et c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une, la trouvaille très prometteuse de chercheurs français contre le Covid. Ils travaillent sur un vaccin nasal indifférent aux variants et capable d'empêcher les contaminations. Explication dès le début de ce journal. L'alerte des syndicats enseignants. Le nombre de démissions augmente en cette rentrée dans l'éducation nationale. Phénomène amplifié par la crise sanitaire, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, Xavier Bertrand qui va devoir convaincre les députés LR. Grand oral aujourd'hui à Nîmes. Et puis la boxe de retour à Roland-Garros, 50 ans après.
À 7h45, votre rendez-vous du vendredi, le débat éco, Thomas Piketty, Dominique Seux, qui échangeront ce matin sur la situation économique en cette rentrée. L'embellie est-elle durable ? Et ce n'est encore qu'une piste, Alexis, mais elle donne beaucoup d'espoir.
Oui, un vaccin par spray nasal pour en finir vraiment avec le Covid. C'est le pari de chercheurs français de l'Université de Tours et de l'Institut National de Recherche Agronomique. Ils viennent de rendre des premiers résultats très encourageants, même si les tests se limitent pour l'instant à l'animal. Ce candidat vaccin a deux gros intérêts. Un pchit dans le nez, c'est pratique pour ceux qui craignent la piqûre. Mais surtout, Véronique Julia, il pourrait avoir un effet très net sur la transmission du Covid, pas seulement donc contre les formes graves.
On le sait, les vaccins existants nous protègent des formes les plus sévères. Mais ils n'évitent pas totalement la transmission, ils en réduisent le risque de moitié seulement. La personne vaccinée peut malgré tout contaminer son entourage. Et c'est sur ce point surtout que les promoteurs du vaccin nasal pensent pouvoir marquer des points. Car l'entrée principale du virus, c'est bien le nez. Élaboré à base de nanoparticules, ce vaccin nasal a montré chez la souris qu'il protège efficacement, mais surtout qu'en induisant une défense locale dans le nez, il devrait aussi empêcher le sujet vacciné d'être contaminant. Spécialiste en immunologie, le professeur Isabelle Dimier-Poisson a développé ce vaccin.
Le principe du vaccin nasal, c'est de induire une réponse immunitaire au niveau du nez pour que cette réponse immunitaire agisse très précocement et fasse en sorte que le virus n'ait plus la capacité de se multiplier et donc n'ait plus la capacité d'être propagé.
Testé sur le hamster, le concept a fait ses preuves.
On a un arrêt très précoce de la multiplication du virus. La charge virale était indétectable dans leurs poumons.
Et l'avantage avec un tel vaccin, s'il empêche bien chez l'homme la contamination, pourrait être à terme l'abandon des gestes barrières. Le vaccin serait en outre efficace contre les variants, car il arme la défense contre plusieurs protéines du virus et pas seulement la protéine Spike. Il se présente comme une seringue classique dont l'embout plastique pulvérise des micro-gouttelettes. Dans le monde, il serait une dizaine d'équipes à travailler sur ce mode d'administration.
Et l'objectif de l'équipe française, c'est une commercialisation pour l'homme d'ici à 2023. Merci Véronique Julia, service Sciences et Santé de France Inter. Tourner la page du virus, revenir à une vie normale, ça fait rêver. Cela devient une réalité au Danemark et Copenhague lève ce matin les toutes dernières restrictions sanitaires dans le pays. Pour les autorités locales, l'épidémie est là-bas désormais sous contrôle avec une très grosse majorité de la population vaccinée. Nous serons au Danemark dans le journal de 8h. Toute autre ambiance à Paris où la justice rentre dans le vif de son enquête sur la gestion de la crise sanitaire avec la convocation ce matin d'Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre de la Santé est donc la première responsable politique à devoir s'expliquer sur les choix faits par l'exécutif face au Covid. Elle risque une mise en examen dans le cadre de ce dossier ouvert il y a maintenant un peu plus d'un an.
La crise sanitaire, 7h34, qui semble accélérer les démissions dans l'éducation nationale.
Oui, alors le phénomène reste bien sûr minoritaire, mais à l'école primaire notamment, dans plusieurs départements, le nombre de départs définitifs d'enseignants pose question en cette rentrée. Autre signe préoccupant, le recours aux contractuels se généralise selon les syndicats qui donnent l'alerte, Sonia Princey.
La crise sanitaire ne fait qu'amplifier une lassitude générale plus ancienne. Résultat, de plus en plus de professeurs jettent l'éponge. C'est même une hécatombe dans certains départements, s'alarme Guylaine David, co-secrétaire générale du SNUIPP-FSU.
On voit que les enseignants sont épuisés, alors certainement par la crise, mais aussi par le métier qui devient de plus en plus difficile. Et on a des personnels qui préfèrent démissionner plutôt que de rester dans l'éducation nationale. En Ille-et-Vilaine, il y a eu 24 démissions là à la rentrée. D'habitude, on a les 3-4 démissions. Dans le 66 aussi, on a eu 19 démissions à la rentrée, donc c'est très inquiétant.
Non seulement les enseignants sont plus nombreux à démissionner, mais ceux qui restent en poste sont aussi plus fatigués en ce début d'année. Les arrêts maladie se multiplient, ce qui crée des problèmes de remplacement inédits dans les écoles, comme en témoigne Catherine Navbekti, secrétaire générale du SGEN CFDT.
On constate des manques de personnel titulaire dans un certain nombre de départements qui amènent les académies à recruter des professeurs des écoles contractuelles. On avait déjà du recours à des professeurs des écoles contractuelles dans les académies de Créteil et Versailles depuis quelques années. Et maintenant, on a des remontées qui font état de ce recours aux contractuels très tôt dans l'année, par exemple en Normandie ou dans l'académie d'Aix-Marseille, ce qui n'était pas le cas avant.
Des postes de remplaçants titulaires ont été supprimés ces dernières années, ce qui accentue les difficultés dans une profession qui attire de moins en moins les jeunes.
Sonia Princesse, spécialiste éducation d'Inter. Malgré cette crise sanitaire, les prévisions de croissance en France viennent d'être revues à la hausse. Eh bien, plus de croissance, ce sera moins de déficit public, veut croire le gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, table désormais sur 8,4% de déficit cette année, contre 9% envisagé initialement et 4,8% l'année prochaine. Elle avait occupé presque tous les mandats de maire à ministre. Lucette Michaud-Chevry vient de mourir à 92 ans. Secrétaire d'État et ministre de Jacques Chirac, notamment à la francophonie à la fin des années 80. Elle était aussi et surtout une figure de la politique en Guadeloupe, où les hommages sont très nombreux ce matin. Longue carrière donc, émaillée aussi de démêlés judiciaires, avec une condamnation en 2019 à 2 ans de prison avec sursis, notamment pour favoritisme. Après Michel Barnier et Valérie Pécresse, c'est à Xavier Bertrand de passer son grand oral devant les députés Les Républicains. Le patron des Hauts-de-France, prétendant à l'Élysée, les retrouve à Nîmes aujourd'hui, et c'est peu dire qu'il est attendu au tournant, lui qui ne veut pas passer par la case primaire pour la présidentielle. Sur place, Anne Souhaitement pour Inter.
Personne ne peut la jouer solo.
À en croire Aurélien Pradier, numéro 3 du parti, Xavier Bertrand n'a plus vraiment le choix. Face à des sondages qui plafonnent, à une Valérie Pécresse qui le talonne, le candidat doit et peut renouer avec sa famille politique.
Il a eu tort de partir solo ?
Tous ceux qui ont quitté notre famille politique à un moment ou à un autre ont fait une connerie. Mais on peut les rattraper, les bêtises.
Mais comment Xavier Bertrand peut-il réparer ? En se pliant aux règles du parti pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle, selon Patrick Hetzel, que ce soit via une primaire ou un vote interne.
Souhaite-t-il, à l'occasion de ce processus, eh bien, s'y inscrire ou non ? Je pense qu'il en va de sa responsabilité.
Un appel à la responsabilité opportunément repris par Robin Reda, soutien de Valérie Pécresse.
Ça me paraît très bizarre que Xavier Bertrand continue de s'enfermer dans une posture où il apparaît comme celui qui divise.
Pas question pour autant d'accueillir Xavier Bertrand sous les huées. Il y a quelques jours, les militants avaient sifflé le nom du candidat soliste, Antoine Savigna, vacciné contre les luttes fratricides à droite.
Et il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à aller se taper dessus. Il faudra de toute façon qu'une fois le candidat désigné, on soit tous unis derrière lui.
Lieutenant Bertrandiste, Julien Dive minimise l'enjeu de la rencontre. Le temps de la réconciliation n'est pas encore venu.
On a le temps, on a encore du temps.
Le grand oral de Xavier Bertrand sera scruté à la loupe.
Anne Souhaitement à Nîmes pour France Inter. Comment les événements se sont-ils enchaînés en cette tragique soirée du 13 novembre 2015? Le troisième jour du procès des attentats aujourd'hui sera consacré à la lecture du rapport résumant les 542 tomes du dossier. Lecture prévue pour durer au moins 8 heures devant la cour d'assises spécialement composée. En attendant, rendez-vous sur franceinter.fr pour le résumé de la journée d'hier, marquée encore par un nouvel esclandre de Salah Abdeslam. En Israël, toujours aucune trace ce matin des détenus palestiniens qui se sont échappés lundi d'une prison israélienne de haute sécurité. Évasion spectaculaire, les 6 prisonniers condamnés pour terrorisme ont creusé un tunnel sous le bâtiment. Depuis, les autorités sont sous le feu des critiques. Une commission d'enquête gouvernementale va être mise en place. Côté palestinien, en revanche, les évadés sont en train de devenir des héros. Vous l'avez constaté, Frédéric Mettezo, à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie.
Dans le salon de la famille Kadri, rafraîchi par un ventilateur, une grande photo de Yacoub est accrochée au mur, où il tient fièrement un fusil à lunettes. Il purge une peine de perpétuité pour une attaque de colons israéliens près d'ici qui a fait un mort et un blessé. Mais pour Mahmoud, l'un de ses neveux, son oncle évadé est devenu une idole.
Mon oncle n'est pas un criminel. Il était en prison parce qu'il a défendu son pays. Et là, avec ses codétenus, ils ont humilié les Israéliens. Ils ont quand même réussi une évasion à l'aide d'une petite cuillère. Franchement, respect.
Saned, un autre neveu, s'est fait tatouer un fusil M16 sur le haut du bras droit.
C'est une arme que j'affectionne, mais je ne l'ai jamais eue en main. Je rêverais de pouvoir l'utiliser contre les forces d'occupation pour obtenir notre liberté.
À Jenin, Mustafa Chita dirige le Théâtre de la Liberté, où un autre évadé participait à des ateliers quand il était adolescent.
Ces jours-ci, on se prépare à Jenin. On se prépare à une incursion israélienne. Je ne parle pas d'une préparation opérationnelle, mais mentalement. On envisage quelque chose, surtout que l'autorité palestinienne ne nous aide pas beaucoup.
La sulta amniya ala al-mantaqa.
l'autorité palestinienne qui a promis de ne pas collaborer avec Israël dans cette traque. Jenin, Frédéric Mettezo, France Inter.
Le gouvernement américain ne veut pas laisser passer la loi anti-avortement adoptée par le Texas. Washington vient de porter plainte contre cet État du Sud pour obtenir le gel du texte, estimant qu'il était contraire à la Constitution. Cette loi, je le rappelle, interdit toute interruption de grossesse au-delà de 6 semaines. Or, à ce stade, la plupart des femmes ignorent qu'elles sont enceintes. Le rare mea culpa de Jair Bolsonaro, le président brésilien, fait marche arrière après ses graves accusations contre la Cour suprême et le système électoral. Mardi, il les avait qualifiés de farces, menaçant même directement des juges de la Cour. Des paroles prononcées dans le feu de l'action, se justifie-t-il aujourd'hui. Je respecte les institutions de la République. Fermez les guillemets.
Il est 7h41, l'ambiance sera moins feutrée que d'habitude ce soir à Roland-Garros.
Oui, 8000 spectateurs attendus, pas pour voir du tennis, non, mais de la boxe. Combat événement entre le français Tony Yoka et le croate Petar Milas. Le retour des coups de poing, porte d'Auteuil, après 48 ans d'absence. Oui, on l'a un peu oublié, peut-être, mais Roland-Garros a longtemps accueilli d'autres sports que le tennis, Hugo Charpentier.
Au milieu du XXe siècle, Roland-Garros accueille de nombreux événements sportifs, voire culturels, du patinage sur glace en hiver 1950, une finale de championnat de France de basket ou même du théâtre, avec Jean Marais notamment, qui est monté sur la scène du cours central.
Il y avait une ambiance certaine. Vous dire que le stade était archi-comble, je ne crois pas.
En dehors du tennis, les manifestations les plus populaires, ce sont bien les combats de boxe, comme en ce jour de juillet 46 raconté par Claude Brasseur dans un reportage d'Antenne 2.
Sur un ring érigé à l'emplacement du filet, Marcel Cerdan, à la veille de devenir champion du monde, y battit l'Américain Holman Williams.
Ensuite, le ring de boxe reviendra sur le cours central à deux reprises au début des années 70. Jean-Claude Boutier face à l'Argentin Carlos Monzon. Après une première victoire en 71, le Français s'inclinera au point 2 ans plus tard. Un combat mythique organisé par Alain Delon et suivi de près par un amoureux de la boxe et de Roland-Garros, un certain Jean-Paul Belmondo.
Décidément, il était partout, Bébel. Jean-Paul Belmondo, dont les obsèques sont prévues ce matin en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, dans l'intimité familiale. Après l'hommage de la Nation hier, cette nuit, les fans ont défilé devant le cercueil de l'acteur aux Invalides et ils étaient nombreux, jusqu'à 2 heures d'attente encore aux alentours de minuit.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.